RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, voici le journal. Tout d'abord, les titres de l'actualité. La presse est un acteur important dans le processus de développement en Indonésie. Le président du Conseil de la presse souligne l'indépendance des médias avant l'élection régionale simultanée 2018 et les élections générales 2019. Riam Izzat, les pays membres de l'ASEAN se coopèrent d'attaquer ISIS. Le ministère du Commerce s'assure que la monnaie numérique ne peut pas être utilisée comme outil de paiement en Indonésie. La politique du Parlement européen concernant les palmiers a, oui, des avantages l'Indonésie. L'Indonésie et l'Italie ont tenu régulièrement un dialogue interconfessionnel. Voici le journal complet. Le gouvernement de l'Indonésie encourage la création d'ajustements des médias d'équilibrer des développements technologiques mondiaux. Cette déclaration a été faite par la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, lors de la présentation des discours d'ouverture lors de la conférence nationale sur les médias de masse à Padang, Sumatra-Ouest. La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, espère que la presse indonésienne sera en mesure de faire des ajustements au milieu des exigences du changement technologique du monde. Elle a été prononcée lors d'un discours à la Convention nationale des médias dans la série de la Journée nationale de la presse à la ville Padang, Sumatra-Ouest, jeudi 8 février. Sri Mulyani a déclaré que les changements et les ajustements sont nécessaires pour couvrir tous les aspects allant des installations et de l'infrastructure des médias à la présentation d'informations pouvant être en lien avec les aspirations et les attentes de la communauté.
Pers adalah salah satu pemangku kepentingan dan sekaligus aktor penting.
La presse est l'un des principaux acteurs dans le processus de développement dans notre pays. Nos intérêts sont similaires. C'est construire et faire progresser l'Indonésie pour créer la prospérité, de la civilisation et de la justice. La presse indonésienne devrait continuer à maintenir et à promouvoir l'esprit de professionnalisme et à créer un sentiment de nationalisme populaire, mais positif et ouvert. Sri Mulyani a ajouté, les progrès de la technologie et de l'information ont permis au public de créer de l'information et de la diffuser librement. Selon elle, la diffusion de l'information a également développé d'être l'information qui n'est pas équilibrée et qui a coincé certains côtés, y compris le gouvernement. Selon Sri Mulyani, le gouvernement indonésien est préoccupé par le fait que la presse peut contribuer à la compréhension et à l'information réelle et crédible sur l'économie et de la situation financière de l'État et du budget des recettes et des dépenses de l'État. Le président du Conseil de la presse, Josep Adi Prasetyo, a souligné l'indépendance des médias et la presse avant l'élection présidentielle régionale simultanée 2018 et les élections générales 2019. Selon lui, la polarisation des médias avant la fête démocratique reste un défi en Indonésie. S'exprimant lors de l'ouverture de la Convention nationale des médias de masse à Padang, Sumatra-Ouest, jeudi 8 février, Josep Adi Prasetyo a déclaré que la tenue de l'élection régionale simultanée 2018 était un test pour l'indépendance des médias et de la presse nationale. Selon lui, l'alignement des médias sur certaines parties de la politique nationale devient un défi qui sera encore envisagé lors de l'élection du chef régional simultané 2018 et la prochaine élection générale 2019.
Pada menjelang dan pasca Pilpres 2014,
vers et après l'élection présidentielle 2014, nos impressions médiatiques, y compris la télévision, y compris sa couverture, semblent se diviser en deux forces, soutenant le gouvernement et d'autres dans une opposition super critique. Les alignements des médias en raison de la polarisation politique se poursuivent pendant les élections 2017 et maintenant avant les élections 2018. Cela se poursuivra plus tard à l'approche des élections générales 2019. Nous savons que 2018 comprendra des élections locales dans 171 régions, 17 provinces, 39 villes et 115 districts. La presse est testée pour savoir si elle peut remplir correctement ses fonctions ou avoir une relation avec des intérêts politiques. Josep Adi Prasetyo a ajouté, jusqu'à présent, la presse de l'Indonésie est appréciée par la communauté mondiale en ce qui concerne la liberté de presse en Indonésie. La liberté de presse est marquée par les lois régissant la liberté de la presse et l'absence d'ingérence de l'État dans les produits de la presse. Néanmoins, selon lui, les gens de la presse nationale ont encore du mal à exprimer les aspirations de la société inférieure dans l'ensemble de la région et à assumer la tâche de maintenir la diversité qui existe en Indonésie. Le ministre de la Défense, Ria Mizar Triakudu, a déclaré que les pays membres de l'ASEAN doivent travailler ensemble pour prévenir et faire face au développement des groupes terroristes de l'État islamique d'Irak et de Syrie ou ISIS en Asie. Selon le ministre Ria Mizar Triakudu, lors de la réunion des ministres de l'ASEAN Retreat à Singapour mercredi 7 février, la coopération entre les pays de l'ASEAN est importante, de sorte que le rassemblement d'incidents de la base de l'ISIS à Marawi ne se reproduise pas. Il a rappelé que les sympathisants du groupe État islamique qui sont retournés dans leur pays d'origine, y compris l'Indonésie, devraient continuer à faire l'objet d'un suivi. Comme rapporté par Antara, jeudi 8 février, la surveillance sera également suivie par le forum Our Eyes, la coopération pour chasser le terrorisme parmi l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, le Brunei Darussalam, les Philippines et la Thaïlande. En outre, Ria Mizar a proposé que la surveillance soit également effectuée dans tous les médias sociaux. Le ministère du Commerce avec la Banque indonésienne et l'Autorité des services financiers organiseront une série de réunions pour prendre des mesures et des décisions concernant l'utilisation de la monnaie numérique dans le cadre de la discussion intitulée « Synergie de l'industrie commerciale basée sur les marchandises, le système de réception d'entrepôts et le marché des ventes aux enchères à l'ère du commerce numérique pour encourager la croissance économique nationale » tenue à Jakarta le 7 février. Enggartiasto Lukita a expliqué que la monnaie numérique comme le Bitcoin devenait de plus en plus répandue en Indonésie. Ainsi, le gouvernement prendra certaines mesures. Cependant, le ministre Enggar veille à ce que la monnaie numérique ne puisse pas être utilisée comme moyen de paiement en Indonésie. Mais certainement, Bitcoin comme outil de paiement ne peut pas être utilisé. Je peux dire que c'est presque certain. Il n'y a pas de soulignement, etc. Nous ne connaissons ni la forme ni la personne. C'est tellement présent maintenant. Le ministre Enggar Tiasto a expliqué que certaines options ont été incluses dans les considérations pour la prise de décision. À la même occasion, Arif Bunimanta, vice-président du Comité national de l'économie et de l'industrie, a apprécié l'interdiction de l'utilisation de la monnaie numérique en Indonésie par la Banque mondiale. Il considère que cette monnaie numérique n'est pas claire et évolue en fonction des attentes. La politique du Parlement européen relative à l'abolition des produits du palmier à huile en tant que matière première des produits biodiesel en 2021 nuira aux pays producteurs d'huile de palme, y compris l'Indonésie. Cette politique est toujours en discussion au Parlement européen et n'a pas été officiellement approuvée ou mise en œuvre par l'Union européenne. Par conséquent, jusqu'à présent, l'Indonésie continue de demander aux pays de l'Union européenne de ne pas suivre ou approuver la politique. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Arman Atanasir, à Jakarta, 7 février 2018.
Baru-baru ini kan Parlemen Uni Eropa itu mengeluarkan kebijakan yang mengatakan untuk
Récemment, le Parlement de l'Union européenne a publié une politique en forme pour faire du largage du palmier à huile comme l'un des biocarburants respectueux de l'environnement. Cela nuira certainement à de nombreux producteurs d'huile de palme, y compris l'Indonésie. Bien qu'à ce moment-là, seulement une étape dans le Parlement et n'est pas la politique de l'Union européenne elle-même. Par conséquent, nous demandons aux pays et de l'Union européenne au sein de la Commission européenne de ne pas suivre, donc cela n'est pas une politique. Arman Atanasir a ajouté, lors d'une réunion bilatérale avec le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a également transmis la question liée à l'huile de palme. Retno Marsudi a fait savoir que l'Indonésie soulignait à nouveau l'importance du palmier à huile pour le bien-être de la société indonésienne, ou 17 millions de personnes, principalement des petits agriculteurs, dépendent fortement de ce produit. Bien qu'il y ait encore quelques pratiques de palme qui ne priorisent pas les aspects environnementaux, Retno a déclaré que l'Indonésie et d'autres pays producteurs d'huile de palme continuent à travailler pour maximiser les efforts de production durable. Le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano, a déclaré que l'Italie et l'Indonésie avaient une forte coopération dans le dialogue interreligieux. Il a affirmé que le dialogue interreligieux de ces deux pays était toujours tenu régulièrement en rang et rend la relation entre les deux pays très parfaite. C'est ce qu'a déclaré Angelino Alfano après une rencontre avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à Jakarta, 7 février. Angelino Alfano a ajouté, l'Italie croit que le dialogue interconfessionnel était l'un des moyens les plus efficaces pour contrer le radicalisme et la discrimination qui arrivent souvent ces derniers temps. Selon lui, l'Indonésie a les mêmes points de vue liés aux efforts contre le radicalisme et la discrimination. En plus de combattre le radicalisme et la discrimination par le biais du dialogue interconfessionnel, l'Indonésie et l'Italie ont également continué et s'efforcer la paix au niveau régional et international. L'un des problèmes qui préoccupe les deux pays est la question palestinienne. Les deux pays espèrent que les problèmes en Palestine se terminent rapidement avec une bonne fin. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serge Thor, voici donc le commentaire et pour le titre, la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN à Singapour. Les ministres de la Défense des pays membres de l'ASEAN se sont réunis à Singapour du 5 au 7 février 2018. Malheureusement, le résultat attendu, à savoir le règlement du code de conduite avec la Chine dans la mer de Chine méridionale, n'est toujours pas atteint. Dans une déclaration après la réunion, le ministre de la Défense de Singapour, Ang Eng Hen, a reconnu mercredi qu'un délai d'un an pour terminer est irréaliste. Des problèmes complexes dans la question de la mer de Chine méridionale n'ont pas encore été réglés. L'année dernière, l'ASEAN et la Chine ont adopté un projet de cadre de code de conduite dans la région de la mer de Chine méridionale. La Chine a accepté de commencer des discussions avec les États membres de l'ASEAN revendiquant la mer de Chine méridionale. Cette année, le code de conduite contraignant et approuvé avec la République populaire de Chine est devenu l'objectif des pays de l'ASEAN demandeurs de revendications. Mais les résultats ne sont toujours pas comme prévu. Pourquoi veulent-ils que le code de conduite soit réalisé immédiatement? Certains pensent que la Chine ne respecte pas la souveraineté des pays de la région de la mer de Chine méridionale. Cependant, la Chine, par l'intermédiaire d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré que Pékin travaillait avec les pays de l'ASEAN pour arranger un code de conduite qui puisse satisfaire toutes les parties. D'autre part, l'ASEAN, par l'intermédiaire de la ministre des Affaires étrangères, Vivienne Balakrishnan, de Singapour, qui préside l'ASEAN cette année, a exprimé les inquiétudes des ministres de l'ASEAN concernant l'augmentation des activités chinoises sur les îles artificielles de la mer de Chine méridionale. Pendant ce temps, l'Indonésie a son propre concept lié à la région Indo-Pacifique qui comprend également la mer de Chine méridionale. Espérons que le code de conduite conçu par l'ASEAN et la Chine peut être finalisé immédiatement afin que les conflits dans la région de la mer de Chine méridionale puissent prendre fin. Ce processus devrait être fait de manière complète afin que les parties puissent accepter ce code de conduite avec un cœur ouvert. Sur le top, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 9 février. Le 9 février 1946, l'Association des journalistes indonésiens a été créé. À cette époque, un certain nombre de journalistes de divers coins et îles d'Indonésie se sont réunis et ont accepté de créer une organisation des journalistes indonésiennes, PWI, en tant que forum pour l'unité des journalistes en Indonésie. PWI est la première organisation de journalistes en Indonésie après l'indépendance, mais n'est pas la première organisation de journalistes établie en Indonésie. Bien avant cela, à la période coloniale néerlandaise, un certain nombre d'organisations de journalistes s'étaient tenues et étaient devenues un forum pour l'organisation des journalistes. L'un des plus importants est Inlandsche Journalistenbond. Cette organisation a été établie en 1914 à Surakarta. Les fondateurs étaient entre autres Mas Marco Kartodikromo, Dr Cipto Mangunkusumo, Sosro Kartono et Ki Hajar Dewantara. Inlandsche Journalistenbond est une organisation journalistique pionnière radicale. Certains de ses membres ont souvent été jugés, certains même exilés à Dikul, par les dirigeants coloniaux hollandais. Grâce au décret présidentiel numéro 5, l'an 1985, l'anniversaire de PWI est officiellement devenu la Journée nationale de la presse. Explicitement, le décret présidentiel numéro 5, l'an 1985, affirme fermement que la création de l'Association des journalistes d'Indonésie le 9 février 1946 à Solo est une étape importante pour la vie et le développement de la presse nationale indonésienne. Le 9 février 1967, le Parlement Gotong Royong a soumis une résolution et un mémorandum au président Sukarno. L'Assemblée consultative populaire provisoire, MPRS, a appelé la responsabilité du président Sukarno lors de la séance générale de MPRS en 1966 sur la rébellion du mouvement 30 septembre du Parti communiste d'Indonésie ou G30S-PKI et le déclin économique et moral. Pour satisfaire à la demande de MPRS, le président Sukarno a donné son mandat le 22 juin 1966 intitulé « Nawaksara » ou « 9 articles ». MPRS a considéré ce mandat comme ne pas répondre aux attentes du peuple car il n'énonce pas clairement la politique du président comme obligatoire de MPRS sur l'incident G30S-PKI dû à le déclin économique et moral. Par conséquent, MPRS demande au président de compléter le Nawaksara. Le 10 janvier 1967, le président Sukarno a donné un complément à Nawaksara, mais le contenu ne satisfait pas de nombreuses parties. Par conséquent, le Parlement Gotong Royong a présenté une résolution et un mémorandum le 9 février 1967, rejetant Nawaksara et ses auxiliaires. En outre, le Parlement Gotong Royong a proposé à MPRS d'organiser une séance extraordinaire pour renvoyer le président Sukarno du poste de président en tant que mandataire de MPRS et de nommer le chargé d'affaires présidentiel. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec Mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie continue de maintenir la croissance économique. La ministre des Finances de la République d'Indonésie, Sri Mulyani Indrawati, assure que l'Indonésie continue de maintenir la dynamique de croissance économique qui était bonne en maintenant la stabilité de la performance du budget de l'État ou APBN. C'est ce qu'a affirmé Sri Mulyani mercredi à Jakarta, répondant aux derniers résultats de l'évaluation de l'économie indonésienne du FMI. Elle a déclaré que l'un des efforts pour maintenir la stabilité de la performance du budget de l'État est de maintenir le déficit budgétaire à un niveau contrôlé et dans les limites autorisées de la loi, à savoir 300% contre le PIB. Selon elle, la consolidation du budget de l'État pour maîtriser que le déficit budgétaire est plus contrôlé d'être la base lors de turbulences économiques venant de l'extérieur. Auparavant, le Fonds monétaire international publiait les résultats de l'évaluation contenus dans le rapport de consultation de l'article 4 pour l'Indonésie en 2017. Le rapport a été discuté lors de la réunion du conseil d'administration du FMI à Washington le 10 janvier 2018. Selon l'évaluation du FMI, l'Indonésie place à la bonne position pour surmonter divers défis socio-économiques. Cette position est soutenue par l'amélioration de la performance des secteurs de l'investissement et de l'exportation qui se développe positivement en 2017. Le FMI prévoit qu'avec des scénarios de réforme fiscale et d'autres réformes, la croissance potentielle de l'Indonésie pourrait atteindre 6,5% à moyen terme en 2022. Tous les directeurs exécutifs du FMI lors de la réunion ont salué l'économie de l'Indonésie et s'est félicité de l'orientation politique à court terme de l'autorité visant à soutenir la croissance tout en maintenant la stabilité. Le conseil d'administration a également considéré positivement les efforts des autorités qui concentrent sur les dépenses publiques au secteur prioritaire et s'est félicité des progrès des investissements dans les infrastructures indonésiennes. Le directeur exécutif du FMI souligne également que les bonnes étapes de réforme budgétaire structurelle devraient être une priorité. En outre, le directeur exécutif considère que la politique monétaire actuelle est suffisante pour maintenir la stabilité des prix et soutenir la croissance économique et recommande l'existence d'une amélioration de la transmission des politiques. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons parler de Jambi Paradise, ou le paradis de Jambi. Vous pouvez écouter notre émission via www.voinews.fr ou les ondes courtes. Jambi est l'une des provinces de l'île de Sumatra. L'emplacement est juste sur la côte et de l'île de Sumatra. Comme les autres provinces de l'île Sumatra, Jambi offre également une variété d'attractions intéressantes à visiter. Jusqu'à présent, Jambi est célèbre pour la ville malaise, mais il s'avère que cette province a aussi beaucoup d'attractions naturelles et d'attractions artificielles. Pour le tourisme naturel, Jambi possède le mont Kerinci et temple Muaro. Et pour le tourisme artificiel, Jambi possède Jambi Paradise ou le paradis de Jambi. Le paradis de Jambi se situe à l'intersection d'Acai, de la rivière Gelam, la ville Jambi. Cette attraction touristique offre une variété de beauté naturelle et les activités touristiques intéressantes, telles que la promenade en bateau, la tyrolienne, nourrir les poissons dans le lac et jouer à cache-cache dans la zone de la labyrinthe. Le paradis de Jambi se trouve à 7,5 km de l'aéroport Sultan Taha, environ 10 minutes par l'aéroport Soekarno-Hatta. Pour entrer à cette attraction touristique, le prix du billet est 20 000 rupiah en semaine et 30 000 rupiah en vacances. L'heure de sa visite est de 8h à 18h. Après être arrivé au paradis de Jambi, il y a un couloir de vignes. Cette allée de 30 mètres de long est l'un des endroits instagrammables du paradis de Jambi. Vous pouvez prendre un selfie dans ce couloir. Non loin de l'allée, il y a des brins de bambou sur les côtés droit et gauche qui donnent de la fraîcheur quand on est assis en dessous. À nous, il y a un pont suspendu. Le paradis de Jambi a une des promenades touristiques dans la forme de tourisme d'eau qui est assez large avec la conception principale sous la forme de petits lacs qui entourent le continent au milieu. Si vous êtes fatigué de voyager, vous pouvez louer un saung au bord du lac pour profiter d'une collation ou simplement boire de la glace de noix de coco. En plus de faire le tour de prendre des photos dans les spots instagrammables, vous pouvez également essayer diverses manèges intéressants dans le paradis de Jambi. Vous pouvez essayer Flying Fox, qui est le plus long à Jambi, avec le prix du billet 30 000 rupiah par personne. Juste en dessous du Flying Fox, il y a aussi un pont suspendu. Vous pouvez tester votre adrénaline en grimpant sur ce pont suspendu. Le billet vaut 20 000 rupiah. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire des sports, vous pouvez également louer un vélo pour contourner cette zone touristique. Si vous voulez plus excitant, vous pouvez également louer une moto VTT située non loin de l'entrée de Jambi Paradise. D'autres attractions intéressantes sont des bateaux, des vélos d'eau et des ballons d'eau. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre l'impact de l'exploitation minière d'agate contre l'environnement. Le phénomène de l'agate est de plus en plus répandu en Indonésie. Ce n'est pas certainement pas seulement un impact positif, mais aussi un impact négatif. Vous, du secteur du commerce, la GOT a réussi à attirer l'attention des personnes à l'extérieur de l'Indonésie. C'est bien sûr cela a l'impact positif pour le secteur du commerce de l'Indonésie. Mais savez-vous d'où vient l'origine de la GOT et quelles sont les conséquences pour l'environnement? L'Indonésie est un pays très riche, non seulement riche en beauté naturelle, mais aussi riche en produits de la terre comme l'agate. Le nombre croissant de passionnés d'agate en Indonésie a conduit les mineurs à rechercher activement la source de l'agate. L'équilibre de la nature a commencé à ne pas être bon. Divers types d'agate sont stockés en profondeur souterraine de l'Indonésie, quand les mineurs sont capables de faire des choses sporadiques. Ne sont pas tous les mineurs ont la permission d'exploiter dans les zones qui ont été déterminées. Même les mineurs qui ont des permis ont commencé à exploiter dans des zones qui ne devraient pas être minières. Les choses considérées comme petites peuvent causer des déséquilibres environnementaux. Les glissements de terrain se produisent souvent à cause d'une exploitation minière illégale. Peut-être les mineurs ne se rendent pas compte de cet mauvais impact. Cette préoccupation a été rapidement consciente par le gouvernement provincial de Jawa Central qui a réagi en élaborant des règlements minières. Les agates ne se trouvent dans de nombreuses régions du centre de Jawa. Pour maintenir l'équilibre et la conservation de sa nature, le gouvernement provincial du centre de Jawa prévoit d'organiser une variété d'activités minières d'agate en rédigeant des règlements minières. La conscience du gouvernement provincial du centre de Java doit être suivie par d'autres provinces d'Indonésie qui sont devenues une source d'agate. Teguh Pariyono, responsable de SDM de Central de Java a révélé que diverses activités minières d'agate doivent avoir la licence car les roches qui sont populaires dans la communauté sont formées à partir de minéraux et de cristaux. Le gouverneur du Central de Java, Ganjar Pranowo, a déclaré que la régulation réglementera l'exploitation de l'agate si bien que l'avenir ne pose pas de problème, en particulier dans le domaine de l'environnement. Pour ceux qui font l'exploitation minière illégale, il y a une peine pendant 10 ans de prison et une amende de 10 milliards de rupiah. Ganjar a ajouté que le permis minier est réglementé par la loi numéro 4 2009 sur les minéraux et le charbon, de sorte qu'il ne peut pas être arbitraire de l'exploiter et doit être autorisé. Les règles fermes sur l'exploitation minière devraient réveiller les mineurs non autorisés. Pour la communauté, devrait également être en mesure de garder bien l'environnement des attitudes des mineurs. On peut chercher des profits à condition qu'ils ne nuisent pas à la communauté et à l'environnement. Serviteurs, c'est l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt. Serviteurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, serviteurs de RRI du Service mondial de la voix d'Indonésie. On se retrouve encore dans la rubrique du magazine musical. Cette édition, on va vous présenter des chansons de dangdut chantées par Via Valen. Pour commencer notre rencontre aujourd'hui, je vais vous présenter une chanson intitulée « Une tasse de miel ». Bonne écoute. Secrétaire, vous venez d'écouter la chanson de Via Valen intitulée « Une tasse de miel ». La chanteuse dont le nom complet est Maulidia Octavia est connue sous le nom de scène Via Valen. Elle a commencé sa carrière depuis l'âge de 15 ans. Cependant, cette chanteuse de dangdut qui vient de Java West a débuté sa carrière professionnellement depuis 2006. Via Valen est de plus en plus connue depuis qu'elle a chanté la chanson intitulé Tricher, qui a été publié au début de 2015. Bon, secrétaire, écoutons maintenant une chanson intitulée Chérie. Bonne écoute.
no sliramu rupa pujane ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah cepul saiki kowe mlenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo yo wis ora popo insya Allah aku bisa
Konu kom insang tas kip kang lezang dekat dedang rut koplo. Jusqu'à présent, elle est également connue comme la reine de pop koplo parce qu'elle chante souvent des chansons pop songre arrangées au rythme de dedang rut koplo. Certaines des chansons qu'elle a chantées en javanais. Son apparition sur scène est très simple avec une tenue décontractée et un maquillage naturel. L'une de ses chansons en javanais intitulée Chérie que vous venez d'écouter. Cette chanson raconte de quelqu'un qui a laissé par son amant sans raison, cependant parce qu'elle aime toujours, elle espère que son amant reviendra vers lui. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme aujourd'hui, écoutez la chanson de Via Valen intitulée Amour pour toujours. Bonne écoute et à la prochaine.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Rasa tulus cintamu. pada diriku masih terasa di hatiku. Kini dirimu bukanlah milikku lagi, berakhir sudah cintaku dengan dirimu. Kau memilih dirinya bukan diriku. Sakit, sakit hatiku.
C'est un autre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOI. INDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.